Père éternel, nous venons devant toi ce matin librement et en toute confiance, car seulement toi peux nous satisfaire. Ô Dieu, tu es notre Dieu. Nous te cherchons. Notre âme a soif de toi. Notre corps soupire après toi dans une terre aride, desséché et sans eau. Ainsi, nous te contemplons dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Nos lèvres célèbrent tes louanges. Nous te bénirons donc toute notre vie. Nous élèverons nos mains en ton nom. Notre âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents et avec des cris de joie sur nos lèvres. Notre bouche te célébrera. Tu es notre secours et nous sommes dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Notre âme est attachée à toi. Ta droite nous soutient. Et Père, on veut aussi reconnaître ta fidélité. Nous chanterons toujours les bontés de l'Éternel. Notre bouche fera connaître, c'est-à-dire à jamais, ta fidélité, car nous disons la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Amen. Alors ce matin, le titre du message est « Notre Dieu de promesses ». Et tout au long du mois de décembre, eh bien, on va se diriger vers les promesses, la grande promesse que Dieu nous a fait, c'est-à-dire celle de nous envoyer un sauveur. Et ce sauveur est Jésus-Christ. Maintenant, comme introduction, j'aimerais vous dire qu'une promesse n'est aussi fiable. On peut se fier à une promesse autant que celui ou celle qui l'a fait. Il y a des gens à qui on peut se fier. Il y a des gens qu'on ne peut pas se fier. Et en raison souvent des circonstances indépendantes de notre volonté, on ne peut pas toujours tenir ses promesses. Il y en a-tu qui ont toujours tenu ses promesses? Alors, je suis content, je ne vois pas de main levée. Hein? Comment désappointant, nos enfants ne sont pas ici pour nous entendre, là, mais souvent, on leur a promis des choses, puis malheureusement, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on n'a pas été capable de tenir nos promesses. Mais Dieu, notre Dieu souverain, celui qui a créé le ciel et la terre, n'a jamais manqué de tenir à sa parole. Jamais. Et dans le but de bien comprendre la signification de ce que est la fidélité eh bien, on doit reconnaître que la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, dépend totalement des promesses de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça répond pas fort le matin. Je ne sais pas si vous êtes gelé. J'ai du Preston dans mon char. J'ai de l'antigel. Êtes-vous d'accord avec ça, que la vie du chrétien dépend des promesses de Dieu? Bon! Je vais vous donner quelques exemples. La seule raison pour laquelle nous sommes certains de toutes ces choses, et je vais vous dire que nous avons la vie éternelle, on est certain d'avoir la vie éternelle, on est certain que le Seigneur est allé nous bâtir, nous préparer une maison, c'est-à-dire dans le ciel, on est certain que nos corps vont ressusciter, c'est parce que Jésus a lui-même garanti ces choses à ses disciples. Si on est certain de cela, c'est parce que Jésus nous l'a promis. Et la Bible est remplie de promesses. On va voir un verset, deux versets. Jean 14, 3, puis un peu plus loin, le verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur nous promet dans Jean 14, 3? « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une belle promesse, ça. Ça vous arrive-tu des fois de songer là, à c'est quoi ça va avoir de l'air dans la maison au ciel? Hein? Moi, j'ai un cadre, là, je vous l'ai dit. Hein? Je ne l'ai pas, je l'ai donné à ma fille, mais un beau cadre, là. Belle petite maison, bien beau petit ruisseau qui coule, puis la forêt autour. Dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a dit ici qu'il était le chemin, la vérité. Ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, c'est vrai. Il n'y a pas de mensonge. Mais la chose la plus importante à retenir, frères et sœurs, ce n'est pas combien de promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, mais le fait que le Seigneur garde chacune d'entre elles. Et elles vont être exécutées, chacune d'entre elles. Maintenant, il y a deux types de promesses. Et une promesse, en réalité, c'est un engagement, soit oral ou, écrit, qu'on va accomplir un acte ou on va s'abstenir de le faire. Donc, par conséquent, une promesse divine, une promesse qui vient de Dieu, c'est l'assurance que Dieu fera tout ce qu'il dit. Dieu va faire tout ce qu'il dit. Et dans la Bible, le Seigneur fait deux types de promesses. Hein? Il y a des promesses qu'on appelle inconditionnelles. C'est quoi une promesse inconditionnelle? C'est un engagement qui est pris sans exception. Et je vais vous donner un exemple. L'alliance que le Seigneur a faite avec Abraham, c'est un exemple. Dans Genèse 12, versets 1 à 3. Regardez bien ce que le Seigneur dit. L'Éternel dit à Abraham dans ce temps-là encore, « Va-t'en dans ton pays, de ton pays, c'est-à-dire va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le verset 2 et le verset 3, c'est carrément une promesse, mais il n'y a pas de condition attachée à ces promesses-là. Donc, ce sont des promesses inconditionnelles. Et Dieu s'est engagé à faire d'Abraham une grande nation et de bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Et comme son descendant, Jésus-Christ, a accompli cette bénédiction-là, parce que le salut est accessible seulement pour tous ceux qui croient. Maintenant, il y a des promesses conditionnelles. Et le mot le dit, il y a des conditions. Et ce type de promesse-là est sujette à certains mandats. Par exemple, l'offre du salut. Dans Romains 10, verset 9, bien, l'offre du salut est conditionnée sur la foi en Christ. On va lire le verset 9. Romains 10, 9, qui dit, et ça commence toujours quand c'est une condition par « si ». Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et dans Exode aussi, chapitre 15, verset 26, le Seigneur dit ceci, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies, c'est-à-dire dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Plusieurs conditions dans le but de ne pas être frappé par les plaies, les maladies que Dieu a envoyées au peuple égyptien. Et même si Dieu fait les deux sortes de promesses dans les Écritures, nous, on ne peut pas. Seules les promesses avec conditions, on peut faire. Parce que, exemple, on va aller à la pêche demain, s'il fait beau. C'est le seul genre de promesse qu'on peut faire. S'il fait beau, on va aller à la pêche. Si. Et la raison, c'est parce qu'on ne peut pas contrôler les événements. Maintenant, il y a des malentendus par rapport à cela. On comprend mal les bénédictions de Dieu. Parfois, on est déçu de Dieu parce qu'on pense qu'il n'a pas en tout tenu à sa parole. Seigneur, tu n'es pas fidèle à ta parole. Ta parole a dit ça, puis garde, ça n'arrive pas. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. C'est notre compréhension. Notre compréhension des Écritures, pas sa fidélité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas toujours reçu ce que nous attendons. Par exemple, on peut désirer quelque chose, penser que Dieu croit, même que Dieu va le faire pour nous, mais ça ne signifie pas que Dieu l'a promis. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a promis, même si tu crois que tu penses que tu devrais avoir quelque chose, si tu as le désir d'avoir. On comprend mal la volonté de Dieu. La même chose, ça pourrait être le résultat d'un péché qui est non avoué dans notre vie. Vous savez que le péché, ce qu'il fait, c'est qu'il met une séparation entre Dieu et l'homme. Comment vous vous sentez lorsque vous avez péché face à votre relation avec Dieu? On a de la misère à prier. On a de la misère à lire notre Bible. C'est dur d'aller à l'église. C'est dur de participer avec les gens aux activités. Il y a quelque chose qui accroche. Souvent, c'est un péché non avoué qui crée un obstacle dans notre relation avec notre Dieu. Et c'est pourquoi on demande à Dieu, hein, dans le psaume 26, verset 2, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » On a besoin d'aller devant le Seigneur et lui demander de nous sonder. « Sonde-moi, ô Dieu, hein, on le chante. Connais mon cœur. Y a-tu quelque chose que je fais dans ma vie qui n'est pas selon toi, qui est un acte de désobéissance, puis je le fais naturellement? Ben oui, je suis naturellement un pécheur. Montre-moi-le. Sonde-moi, ô Dieu. Enfin, parce que la parole de Dieu doit être considérée dans son intégralité, hein, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est dangereux lorsqu'on pige des versets ici et là et qu'on essaye de leur faire dire quelque chose sans regarder le contexte, sans regarder « the whole picture », comme on dit en anglais. On ne peut pas choisir certains versets, certaines de ces promesses-là de réclamation en dehors du contexte de la Bible. Et beaucoup de ces promesses-là, frères et sœurs, sont conditionnelles. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Il n'y a rien qu'il faut faire pour notre salut. Mais pour obtenir des promesses, il faut obéir. Notre salut, il faut croire, c'est sûr. Et souvent, on ne peut pas répondre à ces exigences-là. Maintenant, Dieu est fiable. Hein, on a dit tantôt que Dieu était fidèle. Et la validité d'une telle promesse va dépendre du caractère et de la capacité de celui qui fait ces promesses-là. Donc, on ne peut pas être toujours à la hauteur, ça c'est nous, en tant qu'êtres humains, mais heureusement, le Seigneur l'est, et sa volonté est faite, et il a le pouvoir sur tout ce qu'il dit. Maintenant, pour vraiment comprendre pourquoi Dieu va faire tout ce qu'il dit, on doit comprendre pleinement son caractère. Souvent, je vais dire, hein, connaître Dieu. Est-ce qu'on connaît Dieu? Je pense qu'on ne le connaît pas assez. Et on ne le connaîtra jamais assez. Le désir qu'on a de vouloir étudier la parole de Dieu, de vouloir prendre des cours, c'est pour se rapprocher de Dieu. Et on ne le connaît pas assez, et c'est pour ça qu'on va regarder des vérités ici concernant son caractère, concernant ses attributs, qui nous prouvent que Dieu est fiable. Et premièrement, je veux parler de la vérité. Dieu est vérité. Hein? Tournez dans Tite, chapitre 1, verset 2. Les versets sont au PowerPoint, là. Paul dit à Tite, « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Dieu est vérité. Si jamais tu as des doutes, souligne ce verset-là. Dieu est vérité. Dans l'Ancien Testament, on a un autre passage dans Nombre 23, 19, qui dit ceci, « Dieu n'est point un homme pour mentir. » Dieu ne ment pas. On a souvent l'occasion de mentir. On a une génération perverse. Le diable, c'est le père du mensonge. Pas Dieu. Pas le Seigneur. Et puisque la vérité, c'est l'essence même de la nature de Dieu, eh bien, il est impossible pour lui de mentir. Et par conséquent, on peut croire en ses promesses parce qu'il dit toujours, toujours, toujours la vérité. Donc, ça, c'est un trait de caractère de Dieu. Le deuxième, c'est qu'il est fidèle. Et on va aller dans le passage clé de ce matin qui est Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Qui a fait la promesse? C'est Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 9, Paul dit: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui ça qui ont été appelés? Les chrétiens, les enfants de Dieu. Pas ceux qui ont fait juste une petite prière puis qui, après ça, ils vivent n'importe comment. Ceux qui ont une relation avec le Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, c'est eux qui ont droit à cette communion-là. Et enfin, 1 Corinthiens 10, 13, encore l'apôtre Paul dit, « Aucune tentation, c'est-à-dire, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Belle promesse, ça. Combien de fois on est confronté à un péché qui est difficile à combattre? Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces. Et si jamais le Seigneur ne serait pas fidèle, faites juste vous imaginer ça quelques minutes. Si jamais le Seigneur n'est pas fidèle à ses promesses, toute notre théologie chrétienne s'écroule parce qu'il cesserait d'être ce qu'il dit qu'il est. Imaginez-vous ça, là. Si Dieu ne serait pas fidèle, tout ce que l'on croit, toute la logique de Dieu s'écroulerait. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Imaginez-vous, on est encore dans nos péchés. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Mais Dieu n'a jamais manqué à tenir à sa parole dans le passé. Et il ne manquera jamais. Et on peut lui faire confiance pour l'avenir, pour tout ce qui vient. Peu importe ce qui va se passer demain, après-demain, tout à l'heure, là, dans une heure. Nous sommes pleins de confiance, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est vrai, ça. Il y a des fois, là, quitter ce corps pour être auprès du Seigneur, ça serait mieux que bien des choses. Mais si le Seigneur te permet de vivre, même si tu souffres, même si tu es malade, même s'il y a des épreuves qui te frappent, rends gloire à Dieu. pour sa fidélité. Il y a quelque chose pour toi encore sur cette terre. Si tu es son enfant. Il faut se rappeler, par contre, que Dieu fait toujours ces choses en son temps. Pas de la manière que nous, on veut. Pas à travers des personnes, ou peut-être des situations auxquelles on s'attend. Dieu va faire ces choses en son temps, pas à mon temps. Maintenant, Dieu est immuable. Ça veut dire quoi, ça, immuable? Il ne change pas. Dieu ne change pas. Oh, gloire à Dieu. Hein? Ça, c'est des attributs de Dieu. Puis qui, souvent, moi, je me rappelle quand j'étais petit, à l'école, on nous apprenait ça. Là. Puis à l'école, à l'église réformée, dans le, ce qu'on appelait le petit catéchisme de Heidelberg, les petits-enfants, là, tout petits, il apprenait les attributs de Dieu, puis il se disait, c'est quoi? Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Il savait tout ça. Dans Malachie 3:6, le Seigneur dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Seigneur ne change et ne changera jamais. Par conséquent, il n'y a aucune excuse de s'inquiéter et il n'y a aucune excuse ou façon de dire que Dieu va modifier ses promesses. On n'a pas à s'inquiéter de ça, autrement dit. Si les conditions fixées, des fois, ça peut peut-être sembler qu'il y a eu des changements, un changement de cœur, quelque chose comme ça, mais non. La vérité, c'est que nous n'avons tout simplement pas répondu aux exigences fixées par Dieu. Dieu ne change pas. Notre cœur change. Nos pensées changent. Hein, des fois, on dit on est d'humeur changeante. Dieu est amour. Ça, c'est un autre attribut. Et qui d'autre que l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, versets 7 et 10, à 10, c'est-à-dire, qui dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Car Dieu est amour. Et ça continue. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pas moi qui ai aimé Dieu le premier. C'est lui qui m'a aimé le premier. Dieu est amour. Dieu est juste, mais Dieu est amour. Ses promesses sont toujours basées dans notre meilleur intérêt. Croyons cela. Moi, comme papa, puis Joanne, comme maman, elle veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Puis des fois, on se trompe. Cette semaine, à l'étude biblique, Serge nous expliquait, hein, si nous, méchants comme on est, on ne donnera pas un serpent à nos enfants, on ne donnera pas un scorpion à nos enfants, s'il veut manger, à combien plus notre papa du ciel qui nous aime va nous donner ce qu'on demande selon sa volonté. La croix est la preuve ultime de son amour pour nous. Et Jésus a dit qu'il mourait pour notre péché. Il n'a pas juste dit, il l'a fait. Et si Jésus nous a aimés assez pour garder cette promesse-là, on n'a aucune raison de douter de lui. Aucune. Maintenant, on va regarder pourquoi, comment Dieu peut tout faire ces choses-là, les capacités de Dieu. Hein? On doit comprendre à quel point Dieu est. Et on est encore dans des attributs. On a vu des attributs de caractère. Maintenant, on va voir des attributs de ce qu'il est vraiment. Il est capable, toujours capable de remplir ses promesses. Et on va parler d'omniscience ici. Ça veut dire quoi, l'omniscience? Il connaît tout, il sait tout. Hein? Hébreux 4, 13, « Nulle créature n'est cachée devant toi. » Si tu penses pécher puis tu penses te cacher de Dieu, oublie ça tout de suite. Nulle créature n'est cachée devant toi, lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu connaît chaque détail d'une situation, de son point de vue, il peut voir toutes nos vies du début à la fin. On ne peut rien y cacher. Tu peux cacher des choses à ta femme peut te cacher des choses, mais tu ne peux pas rien cacher à Dieu. Chaque promesse que Dieu a faite est basée sur sa perfection infinie. Dieu est parfait. Sur sa connaissance complète. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est omniprésent. Hébreux 13, versets 5-6. Il est partout. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il va toujours, toujours être là. Dieu est omniprésent. Peu importe ce qu'on est. Dieu ne nous quittera jamais. Jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Sa présence continue, des fois, à achaler certains, mais soyez certains que c'est agréable que Dieu soit toujours avec nous. Et cette présence-là garantit l'accomplissement de toute promesse. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. On le chante. On n'utilise pas ces mots-là souvent, mais dans les chants qu'on chante ou dans la parole de Dieu, c'est évident. L'Éternel, hein, dans Psaume 103, verset 19, a établi son trône dans les cieux et son trône domine sur toute chose. Il est au-dessus de toute chose. Et parce que le Seigneur est complètement souverain au ciel et sur la terre, il n'y a absolument rien qui est hors de son contrôle. Es-tu content de connaître un Dieu comme ça? Il n'y a pas de guerre. Moi, il y a des chums qui ont des bonnes qualités, des frères et des sœurs qui ont des belles qualités. Mais quand j'entends parler de Dieu, puis que je vois qui il est. Wow! Le Seigneur a des pouvoirs, le Seigneur a l'autorité Et il n'y a absolument rien qui est trop difficile pour lui. Dans Jérémie, chapitre 32, verset 17, on dit ceci. « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. À rien n'est étonnant de ta part. » Incroyable. Maintenant, on a des responsabilités. C'est quoi notre responsabilité? On a des responsabilités. Parce que le Seigneur est absolument parfait, parce qu'il est fidèle, bien, on a cette assurance-là parfaite qui va garder ses promesses. Cependant, nous, on doit se positionner à recevoir ce qu'il veut nous donner. Nous devons premièrement obéir à Dieu. L'obéissance est primordiale. Tout au long de l'Ancien Testament, le Seigneur a émis des alliances conditionnées à l'obéissance. Et pour ça, cette semaine, vous lirez le livre du Deutéronome, qui est dans le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, le chapitre 28. Vous regarderez les conditions là-dedans. Pourquoi il faut obéir? Ensuite, si nous, on a demandé à Dieu quelque chose, puis s'il ne nous l'a pas encore donné, bien, on a besoin de sonder nos cœurs, comme j'ai dit tantôt, pour voir si on n'a pas désobéi à sa parole. Hein? 1 Jean 1,9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. » Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser nos péchés. Le Seigneur est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, on est encore pécheur. Ça ne veut pas dire qu'on devrait pécher plus, on devrait pécher de moins en moins, mais ça va arriver encore. Mais, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ensuite, il faut croire au Seigneur. La foi, c'est une exigence indispensable. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Demandez-vous toujours si vous lui faites sincèrement confiance pour accomplir sa parole. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à recevoir le meilleur de Dieu. On s'attend au meilleur. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ne reçoivent jamais rien à cause de leur incrédulité. Crois pas. Et le dernier point, c'est réclamer la promesse. Seigneur, tu l'as promis. Et je réponds aux exigences. Quand on croit à ce que le Seigneur dit, et à ce qu'il fera, on peut prétendre et réclamer en toute confiance la promesse pour nous-mêmes. Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Matthieu 7, 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Et le passage parallèle est dans Luc 11, verset 9. Dieu va pourvoir à nos besoins. Dieu ne change pas. Son esprit reste fidèle à remplir toutes ces promesses-là. Mais si on a des doutes, et le diable va travailler fort à mettre le doute en nous. Et là, on devient préoccupé par le doute. On devient inquiète. Même après avoir prié sur le sujet, on dirait que sa volonté est pas aussi claire. Seigneur, augmente notre foi. On a besoin. Des fois, dans les circonstances de la vie, peu importe, on est facile à se décourager. On est facile à tout lâcher. Je dirais même que des fois, on est facile à blâmer Dieu. J'espère que ces quelques versets-là ce matin, que vous avez tous dans votre pamphlet. C'est un petit peu plus gros le pamphlet cette semaine, mais c'est des grands petits, mais il y a des loupes qui se vendent chez Dollar Store. Mais prenez le temps de revoir ces versets-là. Et en conclusion, je vous dis ceci. Quelques réflexions. As-tu trouvé récemment des promesses de Dieu dans ta vie? Dieu a-tu déjà accompli des promesses dans ta vie? Écris-les. Parce que au jour de l'an, là, le message qu'on va avoir au jour de l'an, le 29, mais celui du 29, là, va vous demander de compter les bienfaits de Dieu. Puis recevoir ses promesses, ce sont des bienfaits de Dieu. Deuxièmement, c'est quoi qui te décourage, qui te dissuade de faire confiance à Dieu, à sa fidélité dans sa parole, dans des situations qui te concernent là? Pourquoi tu ignores l'Église? Pourquoi tu ignores la communion fraternelle? Pourquoi tu ignores la volonté de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu n'y fais pas confiance? Et comment peux-tu passer au niveau suivant dans ta foi, croyant que Dieu va continuer à accomplir ses promesses comme il l'a fait toujours dans le passé? Prions Dieu. Père, nous nous glorifions en toi, en ta parole. On se glorifie en l'Éternel. On se confie en toi, Seigneur. On te craint. Mais nous ne craignons rien du monde. Que peuvent nous faire les hommes? Car tu as délivré notre âme de la mort. Tu as garanti nos pieds de la chute, afin qu'on puisse marcher devant toi, à la lumière des vivants. Et Père, nous t'exaltons, notre roi, notre Dieu, et nous bénirons ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, nous te bénirons et nous célébrerons ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre les œuvres, tes œuvres, et publie tes hauts faits. Nous dirons la splendeur glorieuse de ta majesté. Nous chanterons tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et nous raconterons ta grandeur. Qu'on puisse proclamer le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Amen.